Bonjour, bienvenue pour la 14e édition de Lire et écrire sur Studio Zef 91.1 en FM, tous les samedis de 14h à 15h et en podcast sur studiozef.fr, lire et écrire, où vous retrouverez toutes les émissions. Je vais commencer par l'atelier d'écriture et ses déboires éventuels. Puis je parlerai d'un auteur de romans policiers espagnol, Manuel Vázquez Montalbán. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé des bienfaits des ateliers d'écriture. Aujourd'hui, je vais vous parler des dangers. Le mot danger est peut-être un peu fort, mais ici je veux parler des choses désagréables. Pour un participant, pour l'animateur, voire pour le groupe, qui peut arriver sans crier gare. Une constante, l'animateur doit veiller à ce qu'aucun texte lu ne soit jugé par les autres. Il est recommandé que celui qui gère mette en évidence tout ce qui est positif. Les participants peuvent être touchés par ce qu'ils écoutent, ressentir de la gaieté ou de la tristesse. C'est normal. Mais jamais faire remarquer l'orthographe, les mauvaises tournures de phrases, les mots inappropriés. L'amélioration de chacun se fera tout au long des séances par l'écoute des autres, ce qu'on appelle pédagogie par l'exemple. Mais l'animateur ne peut pas tout maîtriser, juste éviter certains pièges. Seule l'expérience de chacun peut servir. Toutefois, je peux vous en donner ici quelques exemples. Comme dans tous les groupes, il peut y avoir une prise de pouvoir par un participant. La consigne ne lui plaît jamais. Lui peut mieux faire. Il n'est pas inspiré et incite les autres à faire comme lui. Et là, ça peut partir en vrille, rapidement. La solution idéale est de demander son départ pour laisser les autres écrire. Si la situation perdure, à toutes les séances, il faut lui demander de ne plus venir. Les problèmes, alors, étant soit financiers, pour les ateliers payants, ici je parle d'ateliers privés qui sont quand même relativement chers, soit vous n'en avez pas le pouvoir car vous êtes dans une structure associative. Dans les structures associatives, le prix très faible permet d'être consumériste. Il fait beau. Tiens, aujourd'hui je vais aller me promener ou faire du jardin. Et le nombre de participants est très faible, sans que vous soyez prévenu. Il faut donc décider d'annuler avec la frustration qui suit pour ceux qui sont là, mais pas de dynamique de groupe sans un minimum de gens. Donc, on est obligé d'annuler. La consigne doit être claire et comprise. Mais pour être sûr que chacun puisse écrire, il faut qu'elle soit suffisamment ouverte. Donc un savant dosage que l'animateur peut malheureusement rater certaines fois. La consigne doit éviter que le texte demandé parle de soi. Là encore, tout dépend de l'interprétation de chacun. Vous avez beau répéter qu'il faut faire de la fiction, on ne parle que de ce que l'on a vécu. Une consigne peut entraîner que quelqu'un puisse écrire des choses intimes qui peuvent entraîner un malaise chez les autres ou un chagrin incontrôlable. Les jeux collectifs où chacun écrit une phrase à la suite de son voisin peuvent refléter un malaise entre le groupe et l'animateur, entre les personnes du groupe. Peuvent faire ressortir des ressentis sur l'actualité. Là, le résultat peut être catastrophique et entraîner des débats. Il faut donc être conscient que l'on travaille sur de l'humain avec des humains. L'animateur, contrairement à ce qu'en pensent certaines personnes, a donc un vrai travail pour la cohérence du groupe, son maintien dans le respect de chacun, de ses croyances, de sa morale. Ce n'est pas toujours facile. Mais il faut être préparé à ces crises et trouver des solutions pour harmoniser tout ça. Je vais vous parler maintenant de Manuel Vázquez Montalbán, écrivain de romans policiers. Il est né en 1939 à Barcelone et meurt en 2003. La série du détective Pepe Carvalho se situe principalement à Barcelone dans les années 70 après la mort du dictateur, mais aussi à Madrid. Elle se caractérise par ce personnage anti-héros qui aime les femmes et surtout la bonne cuisine. On y retrouve un peu d'autofiction puisque ce détective, comme l'auteur, a fait de la prison sous Franco, a été membre du Parti communiste. Une de ses particularités est aussi d'allumer le feu avec les livres de sa bibliothèque, ce qui, pour l'auteur, est une métaphore entre ce qui est écrit et la réalité qui fait que les livres ne sont bons qu'à être brûlés, puisqu'ils ne nous apprennent rien de la vraie vie. Tout comme Harrison ou Parot, on sent à travers les descriptions précises des plats qu'il cuisine ou qu'il consomme un fin gourmet. La politique est aussi omniprésente, et pas seulement ce qu'on nomme la politique politicarde, mais celle d'un membre du PSUC, Parti Socialiste de Catalogne, unifié avec le Parti communiste, faisant appel à de nombreuses références aux philosophes. Ce côté marxiste militant peut rendre pour certains les références difficiles à lire, voire obscures. Mais les gens qui vivaient en Espagne début 70 vivaient avec ce niveau politique qui, de fait, était incontournable. De même, les comportements, les lieux de vie des personnages sont précis, comme l'aurait fait un ethnologue. Parfois, l'auteur apparaît sous son vrai nom pour citer une conférence, un courant de pensée lors d'une manifestation publique. J'avais noté une petite phrase pensée par Carvalho, Montalbán. Les intellectuels et les artistes ne l'aimaient pas parce qu'ils n'aimaient personne. Le jour où nous autres, intellectuels et artistes, nous nous mettons à aimer quelqu'un, ce sera la fin des artistes et des intellectuels. Ça voudra dire qu'on n'a plus d'ego. Cette phrase se trouve dans les Mers du Sud. Je vais vous lire quelques passages de ses premiers romans qui sont parus en édition 10-18. Extrait de La solitude du manager de 77 et Meurtre au comité central de 1981. Il faisait nuit sur les Ramblas. Carvalho commença à percevoir les signes annonciateurs des accrochages quotidiens. De jeunes apolitiques de la contre-culture et de jeunes contre-culturels politisés étaient en rupture. À tout instant, pouvait débarquer un camarade d'extrême droite jouant la provocation, et sur les trottoirs, les militants des deux groupuscules regagnaient leurs sièges, désormais légaux, peu désireux de se voir contraints de descendre, à coups de matraque, du piédestal récemment acquis de la légalité et de la respectabilité historique. Entre 8 et 10 heures du soir, on ne voyait plus Mac, putain, PD, voyou, grand ou petit. Ils disparaissaient pour ne pas recevoir le contre-coup des brutalités politiques. Depuis sa fenêtre, Carvalho contemplait l'échauffement de l'atmosphère des Ramblas vers le haut. À ses côtés, Biscuter se plaignait du danger croissant de la ville. « Et encore, ici, c'est calme, chef. Vous imaginez Bilbao, San Sebastian, Madrid, les gens du Grappo, de l'ETA et leur séquestration, les types de droite qui tirent sur les manifestants et l'affaire des avocats. Ils cherchent à déstabiliser la situation. »
Déstabiliser, Biscuter ?
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste, chef ? On crée le sentiment que le pouvoir central ne contrôle pas la situation et que le système politique n'arrive pas à garantir l'ordre. Mais ça sert à qui alors ? Presque toujours au pouvoir lui-même. Comme ça, il obtient des garde-fous et des chèques en blanc pour faire ce qu'il lui chante. Comme ça, lui chante. C'est pas juste, chef. Il faudrait tous les pendre. Non, mieux leur écraser la gueule. Je leur casserai, moi, la gueule. Bordel de merde. Le sifflement de la cocotte minute s'était tu. Les jurons de Biscuter arrivèrent aux oreilles de Carvalho presque au même moment que les premiers cris. En un rien de temps, les Ramblas se transformèrent en un défilé nocturne plein d'êtres humains déchaînés, semblables à des soldats de plomb derrière un carreau. La brigade anti-manif descendait en courant vers le point chaud. Soudain, comme mus par un ressort collectif, ils s'arrêtaient et les manifestants en fuite se regroupaient lentement, en rang moins serré, mais encore suffisant pour que puissent à nouveau jaillir les cris « Amnistie totale !» et que les petits groupes avancent à nouveau, défiant la police. Nouvelle charge. Au milieu des premiers flics éclate un cocktail Molotov, semant la panique et stoppant l'offensive. On dirait qu'à la colère contrôlée du début s'est substituée une rage dévastatrice. Devant les policiers, les passants tombent, matraqués au vol, et les tireurs de bombes à gaz et de balles en caoutchouc prennent leur élan pour redoubler leurs tirs contre les groupes en fuite. Le claquement d'un coup de feu joue sur les nerfs de Carvalho Bado. La police s'est arrêtée et se retourne pour regarder vers les rues adjacentes et vers les fenêtres. Un agent tire une balle en caoutchouc aveugle contre les façades et le public se barricade devant une telle pluie. Carvalho ferme ses volets. À travers les rainures, il assiste à un assaut stylisé, mouvement brisé des forces d'ordre, obligées de passer par un aussi petit Judas. On dirait presque ce qui se passe en ce moment.
Thank you.
Se mettre à cuisiner un salmi de canard à 1h du matin est l'une des plus jolies folies que peut commettre un être humain qui n'est pas fou. On fait griller le jeune canard au four, il élimine sa graisse comme lors d'une cure d'amaigrissement et de bronzage. Pendant ce temps, dans une casserole, Carvalho faisait fondre quelques dés de lard. Il y plongeait l'oignon et les champignons et ajoutait ensuite le vin blanc, le sel, le poivre et un petit morceau de truffe. Ces truffes-là venaient de Villores, dans le Maestrazgo. Il se les procurait par l'intermédiaire d'un gérant latiniste qui habitait quelques maisons plus loin. À côté de la cuisine, le gérant disposait d'une pièce dans laquelle il conservait les trésors que lui rapportaient de Villores ses amis ou qu'il raflait lui-même lors de ses séjours, tous les 15 ans. Tout comme les Chaldéens croyaient que le monde finissait avec les dernières montagnes qu'ils connaissaient, le gérant Foster croyait sentimentalement, avec une foi digne des premiers chrétiens, que le monde s'achevait à Villores et que des villages voisins tels que Morella pouvait presque être considéré comme une autre planète habitée par des êtres étranges. Solitaire, buveur et mangeur, le gérant et Carvalho passaient de nombreux dimanches à faire des concours de gastronomie. Le point fort de Foster, c'était la paella de lapin pratiquement sans roux. Parce que l'oignon ramollit le grain de riz lorsqu'il s'égayait, le gérant réciter la guerre des Gaules Cavallo laissait passer l'ouragan latiniste en réfléchissant et il volait au secours de son compagnon dès qu'il abandonnait le répertoire latin pour chanter des rotas de la frange qui sépare Castellon de l'Aragon ou des chansons de Conchita Piquer. Yeux verts, verts comme le basilic, verts comme le blé vert, d'un vert citron vert. 7 heures, après avoir commencé les préparatifs culinaires, il restait toujours quelque chose à goûter chez l'un ou chez l'autre. Et ce n'est qu'au petit matin que Cavallo rentrait chez lui, la tête pleine d'histoires du maestragos, tandis que le gérant avait eu un aperçu des affaires que le détective avait suivies pendant la semaine. Le canard était grillé. Cavallo sépara les cuisses, les filets, les ailes. Il coupa en menus morceaux les chairs restantes et les viscères délicats. Il ajouta ce hachis au jus qu'avait donné le canard, ainsi qu'une poignée d'olives dénoyautées. Après avoir lié le hachis, il les mélangea aux dés de lard, aux champignons et aux morceaux de truffe en y adjoignant une cuillerée de chapelure. Il laissa cuire ce mélange quelques minutes et le versa sur le canard disposé dans un récipient. L'animal, dépecé, s'imprégna d'arômes grâce à la sauce et il retint sur sa peau grillée toute une géographie de champignons, lard, olives, mie de pain et hachis. Il le remit 5 minutes sur le feu et le fit gratiner au four 5 autres minutes. Il ressentit le besoin de solidarité et de complicité qui s'empare des cuisiniers amateurs lorsqu'ils trouvent leur œuvre réussie. 2h30 du matin, il prend le plat à la chaleur agonisante du four et saute les quelques marches qui le séparent du jardin trempé de rosée. La nuit a mis sous une cloche de fraîcheur radicale et de solitude le petit village qu'on dirait créé pour contempler Barcelone jusqu'à la mer d'un côté et de l'autre les aventures d'une Catalogne voyageuse qui se ferait un passage à travers le Valais vers ses montagnes sacrées. Il franchit en courant quelques mètres qui le séparent de l'énorme demeure partagée en 3 et qu'habite seulement le gérant pendant l'année. Après 4 appels, une lumière subite précède l'apparition de Foster en haut d'une terrasse à balustrade blanche. Le sommeil a ébouriffé sa barbe blonde de bouc. Ses cheveux rares, coiffés stratégiquement, il a penché la monture de ses lunettes dont une branche a trouvé son oreille tandis que l'autre cherche la sienne désespérément. En voilà 1 heure, il y a le feu. Un canard en salmi. Quoi ? J'ai préparé un canard en salmi. La bête n'est pas très grosse, mais je ne vais pas la manger tout seul. Mais c'est 2h30 du matin. Un salmi de canard. 2 jeunes canards. De caneton. De confiance. De toute confiance. Va ouvrir les bouteilles de vin, j'arrive. C'est soit Cavallo qui a regagné son domicile très lentement, soit le gérant qui a couru, poussé par la fraîcheur humide et la résurrection de l'appétit. Quoi qu'il en soit, lorsqu'ils se retrouvèrent, le détective n'avait pas eu le temps de déboucher la bouteille de Montexilio. Foster posa sur la table de la cuisine un petit panier plein de fruits secs de Villores, de miel brut de Villores, aussi et d'étranges de petits biscuits appartenant à la famille culturelle des gâteaux secs populaires. Dans leur composition, entraient forcément l'œuf et l'amande. Ces biscuits-là, c'est ma belle-sœur qui les a faits. Ils sont de Villores. Je le craignais. Après le canard, rien de mieux que des noisettes au miel et quelques galettes pour bien lester le repas dans l'estomac. Le gérant ouvre le four et son nez en frémit de plaisir tandis qu'il ferme les yeux. Tu t'es dépassé. Une salade de céleri rafraîchit le gosier de ces messieurs avant qu'ils ne s'attaquent aux salmi parfumés. Là-dedans, il y a une contribution fondamentale de Villores. Tu as mis de la truffe.
Oui.
Ce n'est pas très orthodoxe. Il n'y a pas de truffe dans le salmi. On y met tout ce qui vous chante, bordel de Dieu. Ah bon, puisque tu le dis. Deux petits verres d'eau de vie glacée tentèrent d'ouvrir le mur de Berlin qui obstruait les estomacs des convives. Ce trou normand ne fait pas d'effet ce soir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Le gérant se caresse l'estomac tendrement. Tu es fou, bon, nous sommes fous, il est 4 heures. Si tu veux bien dormir, vomis. L'important, c'est d'avoir mangé ce plat. Le digérer, c'est totalement accessoire, voire inutile. J'irai tout doucement chez moi, et si je ne dors pas dans 5 minutes, je penserai à la cuisine d'un restaurant de Londres où j'ai fait des extras pendant que j'étais étudiant. Alors là, c'est sûr que je vomirai. J'en ai presque envie rien qu'en le mentionnant. Merci, Pépé. Tu as rendu une nuit à ma vie. Je l'aurais passé bêtement à dormir et je l'ai rempli. Thank you. Ce n'est pas un hasard si, au moment d'entrer dans la psychose de fin de millénaire, un livre comme 1984 d'Orwell redevient à la mode et si renaît l'intérêt pour les deux autres projets de littérature utopique les plus conséquents du XXe siècle, Le meilleur des mondes de Huxley et Nous de Zamyatin. Non pas parce que la fin du siècle confirme les prémonitions utopistes de ces trois auteurs, mais en même temps de crise, les secteurs les plus critiques de la culture vivent un cauchemar. L'effondrement de tous les modèles, et lorsqu'il n'y a pas de modèle avalisé ou avalisable, il ne reste plus d'autre issue que l'utopie ou le cynisme, parfois déguisé d'un pragmatisme, lui-même déguisé d'efficacité historique, déguisé en vertueuse prudence. Je ne voudrais pas être sarcastique en présence du corps sans vie d'un homme qui suscita tout le respect et qui, aujourd'hui, ne suscite plus que le respect de ceux qui crurent en lui comme le porte-parole du projet révolutionnaire, mais en présence du corps sans vie de Fernando Garrido, je me demande qu'a-t-on fait de la prudence révolutionnaire qu'il réclamait tellement ces derniers temps pour cacher la perte de toute possibilité d'imprudence. J'ai hésité entre me rendre à cette réunion convoquée avant l'assassinat et l'annuler pour m'enfoncer dans cette douleur que tout bon révolutionnaire doit ressentir, même s'il ne considère pas Fernando Garrido comme un révolutionnaire. Moi non plus, je ne le considère pas comme tel. Et cependant, je voudrais que vous me croyiez lorsque je vous dis que je suis triste comme on peut seulement l'être lorsqu'on perd quelque chose touchant à l'identité elle-même. Et si j'ai accepté enfin de venir, c'est parce que ce meurtre est en soi un aval apparent de l'utopie négativiste. Sous le poids du cauchemar, les critiques de la réalité peuvent réagir en pariant sur une utopie positive ou négative. Un pari sur l'utopie positive entraîne l'obéissance au principe de Lénine, formulé au moment où la crise enserrait le mouvement socialiste russe et européen. Et faute de modèles autres que ceux ayant échoué, Lénine fit sienne la proposition de Liebknecht, étudier, faire de la propagande, s'organiser pour mieux appréhender une réalité déjà difficile à appréhender à cause d'une mécanique politique progressivement dévaluée. Aveuglé par sa propre logique et son refus d'entrer en conflit dialectique avec cette réalité. En revanche, un pari sur l'utopie négative nous donne, en ce moment précis, la preuve par le meurtre de Fernando Garrido que le meilleur des mondes de Huxley, ou l'Océanie d'Orwell, ou le cosmos déshumanisé de Zamyatin, sont proches. Et ce monde qui est le nôtre n'est rien d'autre que le système mondial de domination avalant ses enfants, les intégrant dans la fatalité des règles d'un jeu de survie et d'équilibre. Dans cette optique, le téléphone rouge lui-même n'est pas un trait d'union. Il ligote. L'assassinat de Garrido est une péripétie qui ne va pas déterrer les pics des sans-culottes ni jeter les tangs dans les rues. C'est un morceau de chair offert à la logique du système. Questionner ce fait, c'est questionner le système et mettre en danger la célébration de réunions comme celle-ci ou la réunion du comité central en toute légalité ou l'existence des cours universitaires pour adultes des plus de 25 ans ou la victoire d'écrivains comme Vasquez Montalban au prix Planeta. Ni Orwell, ni Huxley, ni Zamyatin n'ont pu prévoir que le contexte nécessaire à l'obtention du monde horrible qu'ils prophétisent pourrait naître d'un pacte implicite et explicite entre les deux systèmes antagoniques. Zamyatin était un narodnik, un populiste russe qui croyait à une révolution paysanne et à l'implantation d'un mode de production asiatique face au système d'accumulation capitaliste d'État que signifiait la NEP sous l'impulsion de Lénine et le point de Staline. Huxley frivolisait ironiquement sur les excès auxquels pouvait mener le communisme russe hors de toute compréhension directe, uniquement interprétée à partir du blabla passionné des jeunes communistes anglais d'entre-deux-guerres, entre deux régates à Oxford. De fait, l'œuvre de Huxley était une plaisanterie, essayant d'alarmer en toute douceur, en tout libéralisme, la prétendue conscience libérale britannique. Quant à Orwell, comme le dit très bien Döchter dans « Hérétique et Renégat », bien que sa critique soit plus clairement adressée à l'Union soviétique que celle de Zamyatin, Orwell voyait aussi des éléments de son Océanie dans l'Angleterre de son temps, pour ne rien dire des États-Unis. En réalité, la société de 1984 incarne tout ce qu'il haïssait, tout ce qui déplaisait dans son propre milieu. La grisaille monotone des faubourgs industriels anglais, la crasse, la laideur sale et puante de ce qu'il essayait de traduire dans son style naturaliste, réitératif, oppressant, le rationnement de la nourriture et les contrôles gouvernementaux que connut la Grande-Bretagne en guerre. Il leva les yeux du papier auquel il avait eu recours uniquement pour lire la citation où il rencontra le regard de Cavaillot. Ses yeux tentèrent de se souvenir et se souvinrent derrière des vers plus immenses et attristants que ceux d'il y a 25 ans, un masque jaune recouvrit ses traits défaits, comme dégonflés sous la dictature, pointus de ses cheveux en clous de fakir. Il rendit son regard à la collectivité qui, depuis l'horizon, venait former une rive de visage levée à ses pieds de prédicateur. Utopiste ingénu. Ils ont cru qu'il est possible de construire des utopies pour échapper au cauchemar. Alors, ils se contentent de tomber dans l'esclavage de leur peur qui les suivent 20, 40, 100 ans, sans savoir que les cauchemars se transforment et les peurs aussi. Il n'est pas d'imagination capable de faire abstraction de ce qui nous arrive. Quelle utopie pourrions-nous construire aujourd'hui à partir du corps sans vie de Fernando Garrido, dont je n'invoque pas le nom en vain, dont je n'invoque pas le nom sans douleur. Le paysage est obscur, mais c'est précisément parce que la nuit est si noire qu'il peut s'avérer un peu moins difficile de s'y orienter, grâce à l'aide modeste d'une astronomie de poche. Dans le prologue du premier numéro de la revue Hasta luego, j'exprimais mon sentiment d'une certaine perplexité devant les nouvelles contradictions de la réalité récente. Les contradictions se sont accentuées, cependant je suis moins perplexe devant la tâche qu'il fallait se fixer pour qu'après cette nuit obscure de la crise d'une civilisation pointe une humanité plus juste sur une terre habitable et non un immense troupeau d'abrutis sur un fumier bruyant, chimique, pharmaceutique et radioactif. La tâche, qui selon moi ne peut pas être accomplie avec une velléité agitée et irrationnelle, mais au contraire dans la paix rationnelle d'une maison de gauche, consiste à rénover l'alliance 18e-miste du mouvement ouvrier et de la science. Il est possible que les vieux alliés aient des difficultés à se reconnaître, car on les a beaucoup changés. Et dans cette perspective, on peut rassembler divers mouvements. L'écologie, porteuse de la science autocritique en cette fin de siècle, le féminisme, qui, s'il fonde la puissance émancipatrice avec celle des autres forces de liberté, et pourquoi pas. Les organisations révolutionnaires classiques, si elles comprennent que leur capacité de travail pour une humanité juste et libre doit se décanter et se confirmer à travers l'autocritique de la vieille connaissance sociale qui préside à sa naissance, non pas pour renoncer à son inspiration révolutionnaire, en se perdant dans le triste bataillon social-démocrate au moment précis où celui-ci, après avoir consommé sa participation à la restauration du capitalisme d'après-guerre, est à la veille de la débandade, mais pour reconnaître que c'est eux, les gens qui vivent de leurs mains, qui ont été trop éblouis par les riches, les décréateurs de la terre. Dommage que Fernando Garrido ne soit plus parmi nous pour entendre cet appel, cette proposition d'espoir, d'utopie positive. Je regrette de le dire, mais il est mort dans les rangs de la triste troupe social-démocrate, dans les rangs des détracteurs de la Terre, même s'il est sauvé par l'histoire, par sa mémoire, par notre mémoire. C'est le moment de la consigne. Sur fond de souvenirs poétiques de votre jeunesse, écrivez une petite aventure qui aurait pu vous arriver. Voilà, c'est fini pour ce mois-ci. Et si vous voulez goûter aux ateliers d'écriture, venez à l'atelier d'écriture de l'Alep Blois les mardis de 14h15 à 16h15. Au revoir.